Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs de notre Église, le Creusot. Merci à tous les frères et sœurs et les amis qui auront peut-être l'opportunité d'écouter ce message, le message de ce matin. Tout d'abord, commençons par la prière. Père éternel, à toi la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses et rien ne t'échappe. Tout vient de toi, par toi et pour toi. Nous te remercions pour tout ce que tu permets de vivre, que nous vivions en ce moment. Et je te prie à travers ce que nous vivons, tu puisses parler à notre cœur. Tu nous puisses nous faire rentrer dans cette dimension spirituelle qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre logique et qui nous peut nous rendre disponibles, disposés à ouvrir notre cœur à toi. Libérés des jugements hautains, mais dans l'humilité, la simplicité, la repentance, notre cœur s'ouvre à ta parole, que tu puisses nous parler. C'est dans la difficulté que les cœurs sont disposés à t'écouter, Père éternel. Ben, je te prie, Seigneur, de faire cette situation exceptionnelle que nous vivons, que l'humanité vit, les cœurs s'ouvrent et se rendent enfin disposés à t'écouter. Je te prie, mon Dieu, pour tous nos frères et sœurs, là où ils sont, là où elles sont, qui souffrent dans leur chair, malades, que tu puisses les accompagner, que tu puisses parler à leur cœur, à notre cœur, que tu puisses les combler de ton amour, de ta grâce et ta consolation. Seule ta consolation peut répondre à cette attente, à ce besoin humain. Je te prie de nous permettre aussi de vivre dans la communion fraternelle et de nous remplir de ta sagesse et de nous montrer que l'Église n'est pas seulement et n'est pas du tout réduite à un bâtiment, mais l'Église, c'est Christ, une union en Christ des frères et sœurs du monde entier. C'est cela, l'Église, que tu rends possible selon ta volonté par des rencontres physiques. Mais la base et la réalité, c'est le fondement spirituel de l'Église qui n'est rien d'autre que Christ unissant tous les frères et sœurs. Je remets entre tes mains le message de ce matin afin que tu puisses permettre aux frères et sœurs, permettre aux frères et sœurs de réaliser le message qui dépasse les mots, de réaliser et de vivre cette communion fraternelle que nous pouvons expérimenter durant cette période exceptionnelle, difficile. Que ta volonté se fasse parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable, et que tu puisses parler à notre cœur au-delà de notre intelligence, de notre entendement. Que ce que nous partageons ce matin soit une nourriture spirituelle pour chacun de nous, à commencer par l'orateur. Que ça nous permette de nous remettre en question sans cesse, nous remettre en question dans l'humilité, la simplicité et surtout dans la repentance. En ton saint nom. Amen. Alors nous voilà au 13e jour, je dirais, de confinement. Et c'est notre deuxième dimanche dans le confinement. Ce matin, je vais partager avec vous un message de notre frère David Wilkerson, cet homme de Dieu qui est né en 1931 aux États-Unis et qui est décédé en 2011. Je ne vais pas vous faire la biographie de ce frère connu et reconnu par sa vie par son investissement dans le milieu chrétien, et pas que dans le milieu chrétien, son investissement dans la société tout simplement. Cet homme de Dieu, ce pasteur, cet orateur, conférencier, et qui est aussi cet homme de Dieu qui s'investit sur le terrain, nous donne un enseignement à travers sa vie d'abord, mais à travers aussi ses écrits et ses témoignages. Cet homme de Dieu, David Wilkerson, si vous voulez, il est connu, surtout connu, il n'y a pas que par cet événement qu'il est connu. Il est connu par le livre qui a inspiré un film, La croix et le poignard. Oui, c'est ce frère, dans son ministère, entre autres, s'est investi au milieu des jeunes drogués et des membres des gangs à Manhattan, au Bronx et à Brooklyn. Oui, c'est cet homme de Dieu décédé en 2011 qui nous a laissé une richesse, je dirais, à travers le témoignage de sa vie et à travers les messages qu'il nous a laissés. Aujourd'hui, ce matin, ce dimanche, je vais partager avec vous le message titré, qui se titre « Répondre à l'appel de la douleur ». Répondre à l'appel de la douleur. Mais avant de vous lire ce message, je tiens juste à vous alerter, chers amis, chers frères et sœurs, en parcourant la toile, en parcourant les différents sites web, je me suis rendu compte que des soi-disant prophètes, des personnes qui se déclarent prophètes, des personnes qui se déclarent guérisseurs, ça se propage sur la toile, et en jouant sur la faiblesse des auditeurs, ils se lancent dans du ce que j'appelle du charlatanisme, demandant, priant même à travers la toile, en direct, ou que sais-je, pour prendre position sur telle maladie, sur tel virus, que sais-je, ces gens rendront des comptes devant Dieu. Faites attention, chers frères et sœurs, de ne pas tomber dans ce piège qui n'a aucun fondement biblique. Qui n'a aucun fondement biblique. Ce n'est pas parce que nous mettons une bougie à gauche, à droite, qu'on utilise les moyens technologiques et qu'on élève une voix et se disant prendre position pour que de l'autre côté des gens faibles croient être en présence d'un homme ou d'une femme de Dieu. Alors c'est tout le contraire. Je vous alerte, chers frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège qui n'a aucun fondement dans la Bible. L'attitude est l'attitude de cœur. La vie chrétienne est une vie sérieuse. Craindre Dieu et ne pas se déclarer prophète, guérisseur, ou que sais-je. Oui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, peut apporter ce soulagement à travers la guérison. Mais ne tombons pas dans ce piège systématique où des gens se déclarant guérisseurs, déclarant prophètes, commencent à prendre position comme si le chrétien n'est pas destiné à souffrir. Comme si la maladie ne fait pas partie du processus naturel. Rappelons-nous l'apôtre Paul lui-même, qui a prié trois fois pour que le Seigneur le délivre de cette écharde, de cette maladie ou que sais-je. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Rien n'est systématique. Faisons attention à ce cahier des charges qu'on élabore humainement, qu'on attribue à Dieu. Ces gens-là rendront des comptes. Dieu nous appelle à une guérison intérieure. Oui, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes remis en mouvement. Et c'est cette guérison-là, intérieure, qui est indispensable, parce que c'est là qu'héritera le royaume des dieux, l'éternité. Dieu, dans sa grâce, peut nous accorder cette grâce de guérison. Oui, mais Cette guérison n'est que le reflet extérieur, visible, de quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi. C'est pour cette guérison éternelle, spirituelle, que nous sommes appelés celle de la croix, celle de la régénération. Faites attention, chers frères et sœurs. Je tiens vraiment à vous alerter sur ce qu'on voit sur la toile, sur les sites internet. Jouons sur les sensations, sur les capacités sensorielles des uns et des autres. Ne tombons pas dans ces pièges. Et ces gens-là rendront des comptes le moment venu devant Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, ne tombons pas aussi dans les jugements hâtifs. Ne jugeons pas sans semblable. Ne tombons pas dans les complots. On est dans une situation actuelle exceptionnelle de confinement qui favorise toutes les idées, tous les complots, les jugements. Nous sommes appelés à revêtir un cœur pur. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes la lumière dans les ténèbres. Libérons-nous de ces jugements hâtifs et libérons-nous de ces complots. Qui ne cherche qu'à s'immiscer dans la société? Oui, ces complots, ces rumeurs, ces jugements sont favorisés par la situation exceptionnelle que nous vivons. C'est à travers l'épreuve que les cœurs s'ouvrent. C'est à travers l'épreuve que l'Église est appelée à devenir témoin dans ce monde. C'est à travers l'épreuve que Dieu sanctifie son Église. C'est à travers l'épreuve que l'Église peut être fortifiée, que chacun puisse s'examiner. Prions pour le monde, prions pour nos dirigeants, prions pour tous les chrétiens du monde, prions pour les chrétiens dans sa famille, dans son environnement, l'église locale. Prions dans l'humilité. Prions dans la remise en question permanente. Chers amis, chers frères et sœurs, cette situation nous montre à quel point nous sommes faibles, à quel point nous ne pouvons rien, à quel point l'être humain, l'humanité, est à l'origine du mal et du bien. Oui, l'humanité est appelée à se remettre en question. Cette situation qui fait souffrir tant de personnes, des familles dans la douleur parce qu'ils ont perdu un cher, des personnes qui souffrent dans leur lit, à l'hôpital. Ne tombons pas dans le jugement. Ne tombons pas dans le complot. Mais que cette situation, tout en pensant de tout cœur, tout en étant de tout cœur avec toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, se remettre en question, s'interroger et dire au Seigneur, c'est dans cette situation exceptionnelle que tu peux nous parler. Dans ce confinement, tu peux nous éclairer. Dans ce confinement, tu nous apprends à porter notre croix. C'est dans ce confinement que nous pouvons expérimenter le brisement. C'est dans ce confinement que nous pouvons rentrer et suivre le cheminement que le Seigneur a suivi. Tout chrétien est appelé à suivre le même chemin que le Seigneur. Certes, pas de la même manière. Nous ne sommes pas appelés à monter sur une croix pour être crucifiés. Non. C'est seulement en traversant l'épreuve, on se dépouille, on réalise nos limites pour que nous puissions s'écrier devant le Seigneur. On ne peut rien. Je ne peux rien, je suis faible. Mais toi, tu peux tout parce que tu as tout accompli. Viens, habite en moi, habite en nous et accomplis ton œuvre selon les désirs de ton cœur. Chers amis, chers frères et sœurs, après cette introduction, je tenais à partager avec vous. Nous allons passer, maintenant je vais vous lire le message du frère David Wilkerson qui s'intitule « Répondre à l'appel de la douleur ». Tout comme Ruth nous enseigne à partager la joie du Seigneur, le prophète Samuel nous enseigne à partager sa douleur. Mais quel rapport y a-t-il entre la souffrance de nos cœurs et cette fin, F-A-I-M, et cette fin de Jésus? Et d'avoir faim de Jésus? Si nous avons réellement faim, F-A-I-M, de Jésus, il nous faut connaître son cœur et prendre ouvertement position contre les péchés qui le brisent. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis convaincu que la seule façon de vivre la joie de Christ dans sa plénitude, c'est de partager aussi son affliction. Les Écritures rapportent qu'au temps de Noé, et je lis dans Genèse chapitre 6, versets 5 et 6, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Dieu pleure sur le péché, et ceux qui marchent en vérité de cœur avec lui connaissent aussi cette peine. Le mot hébreu qui est traduit ici par affligé parle plus précisément d'une entaille dans le cœur, donc de douleur. La méchanceté des hommes blesse profondément le cœur de Dieu. Ésaïe disait, en parlant de Christ, dans Ésaïe 53, versets 3 et 4, « Homme de douleur et habitué à la souffrance, certes ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Ésaïe 53, 3, 4. Christ a partagé la souffrance du Père Céleste. Souffrance causée par le péché de l'humanité. On retrouve cette souffrance chez certains hommes de la Bible. Le roi David a connu la joie parfaite en Dieu Yahvé. Mais la joie de David était née de cette souffrance qu'il avait éprouvée en voyant les transgressions du peuple. David dit dans Psaume 119, verset 158, ou plutôt dans les Psaumes 119 et 158, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta promesse. Oui, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta promesse. Psaume 119, 158. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Psaume 139, verset 21. David haïssait ce que Dieu haïssait et pleurait sur tout ce qui faisait pleurer Dieu. Le prophète Amos a lui aussi partagé la souffrance de Dieu face à un peuple rétrograde qui se prélassait dans la facilité, oublieux de l'imminence du jugement. Il dénonça violemment ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Ajoutons à leurs propos, ils ne souffrent pas de la ruine de Joseph. Amos 6, 1 à 6. Ces gens se vautraient dans la volupté et buvaient le vin et de l'égoïsme, mais ne s'attristaient pas du désastre qui les entourait. Et pour décrire une telle absence d'affliction, Amos a utilisé le mot « malade ». Il leur disait ceci, « Le péché et la ruine qui règnent dans le peuple de Dieu ne vous rendent pas malade et ne vous inspirent point de dégoût, car vous êtes vous-même aveuglés par le péché et la vie facile que vous menez. » Néhémie fut attristé de voir que le diable s'était infiltré dans la maison de Dieu. Un ministère rétrograde avait amené la compromission dans la maison du Seigneur, et Néhémie fut le seul à comprendre l'ampleur du mal et ses conséquences désastreuses sur le peuple. En ce temps-là, le grand prêtre Eliakim, dont le nom signifie en hébreu « unité par la compromission », avait permis à Tobija, un prince ammonite, de loger dans le temple, selon la loi, dans le temple. Oui, ce grand prêtre Eliakim, oui, avait permis à Tobija, un prince ammonite, de loger dans le temple. Selon la loi, aucun ammonite n'était autorisé à entrer dans le temple, mais Eliakim on avait donné la permission à Tobija, dont le nom veut dire prospérité, plaisir, vie de jouissance. Le grand prêtre fit de la maison de Dieu la résidence d'un païen. C'est ainsi qu'un ministère corrompu s'associa au paganisme. Le sacrificateur Eliakib était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et était parent Tobija. Néhémie 13:4. Le peuple de Dieu aspirait à une vie facile et prospère, et Tobija n'était que trop désireux de leur enseigner les voies de l'idolâtrie. Néhémie voyait qu'un ministère permissif cautionnait la présence du démon. Dans Néhémie 13, versets 7 à 9, nous lisons « À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu. » Néhémie n'agissait pas sur un coup de tête, pas plus que par tradition ou légalisme. Il voyait avec le regard de Dieu, éprouvait les mêmes sentiments que Dieu et discernait la gangrène qui se développait dans la maison de Dieu et qui était le fruit de la compromission. Si un plus grand nombre de conducteurs spirituels mesuraient aujourd'hui les dangers des plaisirs de la chair et du matérialisme, ils en seraient attristés comme Néhémie et les banniraient de leurs églises. Ô Seigneur, donne-nous des prédicateurs et des fidèles qui en ont assez de tout cela et qui prennent position contre le péché. Donne-nous des gens qui ont le don de discerner cette infiltration néfaste du compromis dans la maison de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul aussi a versé des larmes sur l'état rétrograde dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Il a lancé cet avertissement. Dans Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Le verbe grec qui est traduit en pleurant prend un autre sens plus fort. Sanglots bruyants venant d'un cœur brisé. À la vue de ces chrétiens qui s'éloignaient pour aller jouir des plaisirs du monde, faisant fi du sacrifice de la croix, le cœur de Paul s'est brisé jusqu'à faire sienne la souffrance de Dieu. Cela n'avait rien d'un désespoir muet ou d'un simple soupir de résignation. C'est le cri perçant d'un homme déchiré, partageant la douleur de Dieu à l'égard de ses enfants rebelles. Mais comme je l'ai déjà dit, le seul homme qui, à l'exception de Christ, fut appelé à manifester plus qu'aucun autre la souffrance de Dieu, fut Samuel. La douleur qui l'accablait n'était pas la sienne, ni celle de l'humanité, c'était l'insondable douleur de Dieu. Au cours des années précédant la naissance de Samuel, le peuple de Dieu était éloigné de lui pour tomber dans l'idolâtrie et la déchéance intérieure. Dieu en était profondément attristé, mais il ne trouvait personne qui puisse en aviser son peuple. Le Seigneur était sur le point de retirer sa gloire de sa maison à Silo, et les prêtres qui se tenaient devant l'autel n'en avaient même pas conscience. Comme il est navrant d'être sourd, muet et aveugle à ce point, à l'heure même du jugement. Oui, comme il est navrant d'être sourd, muet et aveugle à ce point, à l'heure même du jugement. Israël était corrompu, ses prédicateurs adultères et l'Église complètement aveugle. Le sacrificateur Élie, E-L-I, qui servait alors dans le temple, est l'archétype du système religieux décadent qui se distingue par son égocentrisme et son mépris purement symbolique pour le péché. Oui, par son mépris purement symbolique pour le péché. Au moment même où le peuple se laissait glisser dans une vie facile, Élie s'était empâté et les affaires de Dieu ne l'intéressaient plus guère. Et c'est la tête ailleurs qu'il exerçait sa double fonction de prêtre et de père de famille. Ses fils, Ophni et Phinéas, représentent l'église traditionnelle d'alors. Ces deux jeunes prêtres n'ont jamais vraiment rencontré Dieu. Ils n'éprouvaient pas cette soif de le connaître et ne savaient pas se mettre à son écoute. Ils ne possédaient pas ce feu dévorant qui permet d'entrer dans la gloire et la présence du Seigneur. Ils étaient dévorés, au contraire, par la débauche et endurcis par le péché. Il n'est pas vraiment nécessaire de revenir si loin en arrière pour avoir un aperçu du genre du système religieux qui protège et même encourage ces prédicateurs égocentriques. Il nous suffit de regarder autour de nous, aujourd'hui, pour voir comment ces bergers qui ne jeûnent ni ne prient cherchent en fait les meilleures positions dans l'Église et avec elles les meilleurs avantages et les meilleures chances de promotion. Les âmes perdues ont toujours été le cadet, le dernier de leurs soucis. Ils ont une bien piètre connaissance de la souffrance et ne sont que des produits d'un rituel froid et mort. Ils ne possèdent pas cette fraîcheur qui procure la communion avec Dieu. Leurs paroles sont empreintes de vérité, certes, et leurs actions sont dignes de professionnels, certes, mais ils ne sont revêtus d'aucune onction divine. Ils ne craignent pas le Dieu très saint. Et tout comme les fils d'Élie, ils chérissent la sensualité, le monde et leur propre personne. Ils s'engraissent des prémices de toutes les offrandes d'Israël. Il suffit de lire 1 Samuel, chapitre 2, verset 29. Ophni et Phinéas étaient si corrompus que Dieu les surnommait fils de Bélial ou encore fils de Satan. Les Écritures disent aussi, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Il suffit de lire 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, de nombreux jeunes des églises évangéliques perdent leurs enthousiasmes. Perdent leur enthousiasme et mènent une vie sensuelle, ennuyeuse et dénudée et dénuée de tout repos. Trop de pasteurs ont cautionné cette sensualité chez les jeunes et nous devons maintenant faire face à cette tragédie qui touche toute une génération qui est maintenant à la dérive. Il n'y a malheureusement qu'autre peu de bergers qui puissent leur montrer comment échapper aux pièges sataniques de notre temps. Comme cela arrive bien souvent aux bergers rebelles, Élie perdit le don spirituel du discernement. L'histoire d'Anne dans le temple nous le montre clairement. Cette femme pleurait amèrement dans la maison de l'Éternel à Silo. Elle ne cessait d'implorer Dieu, le suppliant de lui donner un fils. Anne est ici pour nous l'exemple de ces derniers saints qui aujourd'hui aspire et crie au Seigneur dans l'espoir d'une parole de réconfort. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 13, je lis, « Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. » Élie pensa qu'elle était ivre. Anne priait Dieu en esprit, revêtue de l'onction divine, et allait devenir le canal par lequel jaillirait le renouveau en Israël. Cependant, Élie ne s'en rendait pas compte. Il n'avait pas non plus la moindre idée de ce qui se passait alors devant l'autel. Vous devez vous demander ce qui avait bien pu arriver à ce prêtre du Très-Haut. Comment pouvait-il être à la fois si près de ce nouveau et puissant souffle de Dieu et si loin du Seigneur pour en arriver à confondre les effets de la chair et ceux de l'esprit. Quelle tristesse pour le Seigneur qui désirait et s'apprêtait à changer cet état de choses. Comment allait-il pouvoir faire passer son message à ce peuple d'Israël, rebelle et corrompu? Élie avait fait preuve de tant de complaisance et demeurait si ancré dans les traditions qu'il n'avait pas la moindre notion des projets de Dieu. Le message que nous apporte ce passage est clair. C'est hors des structures religieuses établies que Dieu dut chercher pour trouver une personne assez réceptive pour partager sa souffrance. Voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis, le message de notre frère David Wilkerson. Oui, ce message nous interpelle. Nous interpelle en tant qu'Église. Nous interpelle à être individuel. Chacun est devant sa responsabilité. Chacun devant sa conscience, son être intérieur. Que cette situation que nous vivons actuellement nous permette de nous interroger, de nous poser des questions et de nous remettre à genoux, de nous mettre à genoux devant le Seigneur. Peut-être devons-nous pardon. Peut-être confessons-nous, nous devons nous confesser devant le Seigneur. Mais certainement, durant cette période, le Seigneur parle. Il parle à chacun de nous. C'est plutôt la surdité de notre cœur qui nous empêche de entendre cette voix. Que le voile se déchire, que la croix fasse en œuvre afin que nous puissions avoir accès à notre Créateur, afin que nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent pour recevoir le message qu'il veut s'adresser à chacun de nous en tant que chrétiens et ensemble en tant qu'Église. Que Dieu accomplisse son œuvre et que sa volonté seule se fasse parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Amen.